les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Saint-Ferréol, bonjour et bienvenue dans Les Ondes Buissonnières, l'émission des pépites de la rédac de Radio Saint-Fé. Et aujourd'hui, nous vous proposons l'écoute d'une interview réalisée par Manu Bournet, une de nos bénévoles à la radio, et Philippe Sibel. Cette interview a été réalisée dans le cadre des rencontres Concertina, des rencontres autour des thématiques de l'enfermement qui ont eu lieu cette année du 1er au 3 juillet 2022 à Dieulefi. Je cite la réalisatrice et le réalisateur. Fin des années 90, rapatriement sanitaire suite à un choc des cultures. Remise en cause profonde, subie, de l'universalisme français. 17 ans, naïf et utopiste, bercé au roman national, extrait du monde pour celui des blouses blanches et son quart-monde. Un témoignage dans le noir d'une série de séjours à l'hôpital psy. L'interview est suivie d'un morceau de rap de Cez et Jaxi lors d'un enregistrement de l'émission Dérapage sur Radio Saint-Fé et sélectionné par Manu Bournet. Bonne écoute à toutes et à tous.
J'étais plein de médocs en fait, il m'avait shooté au médoc. J'ai encore un flash d'entendre les sirènes de l'ambulance qui m'emmenaient. Au son de la sirène de l'ambulance, j'ai compris que j'étais en France. Et après j'ai un flash de voir... de sortir de l'ambulance et de voir ma sœur et mes parents. Et après qu'on me montre un lit, et que là je m'endors. Et après quand je me réveille, ben, y a plus mes parents, y a plus ma sœur. Et je me lève et je comprends pas où du tout je suis. Mais pas du tout. Je vois des gens, il y a des gens à droite à gauche. Et là, c'est en fait ce qui m'a angoissé à ce moment-là, c'est qu'il n'y a personne qui est venu me revoir à ce moment-là. Je me réveillais, j'ai erré dans le service de l'hosto. Il n'y a personne qui est venu vers moi, en fait. Donc j'ai fait le tour. Et là, tout d'un coup, j'entends sonner à la porte. Et puis en fait, j'étais encore plein de médocs, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'étais complètement shooté. Donc j'étais vraiment dans un gros coton, et donc j'avais même du mal à appréhender les distances, à me repérer en fait. Qu'après je me suis rendu compte qu'en fait j'étais tout petit. Et là j'ai vu quelqu'un qui sonnait, il y avait une double porte, c'était la porte d'entrée. Et on voyait sa tête parce qu'il y avait une petite vitre. Donc là j'ai compris que c'était la sortie en fait, puisqu'il sonnait pour rentrer, il attendait que quelqu'un vienne lui ouvrir. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte. Faut pas que je reste ici. Et donc, j'ai pris tout mon élan. Je me suis jeté sur la porte à pieds joints. Une fois, pas. Deux fois, pas. Trois fois. Et puis là, j'ai senti qu'on me sautait dessus. Je sais pas combien ils étaient pour me plaquer au sol. Dans mon souvenir, j'ai reçu une piqûre au niveau du pied. J'ai demandé après, on m'a dit que non, mais mes infirmiers m'ont dit que non, mais moi je me rappelle avoir senti une piqûre, alors c'est peut-être juste qu'en essayant de me contenir, il me faisait un peu mal au pied parce qu'il s'était assis sur moi, quoi. Et voilà, alors, en tout cas je me suis endormi. Et puis je me suis réveillé dans le noir. Et comme j'avais essayé de fracasser la porte, ben, j'étais à l'isolement. Dans le noir complet. Pièce fermée, on n'entendait aucun son. Alors pas du tout de son, pas de lumière. Et il y avait par terre, il y avait juste un matelas. Et donc j'ai tâtonné, j'ai marché un peu à quatre pattes pour essayer de comprendre l'environnement. J'ai fait le tour, j'ai senti les murs. J'ai trouvé un seau. Mais j'ai pas compris tout de suite à quoi ça servait. Après. Je suis tombé sur un plateau repas, par terre. Alors, j'ai pas voulu toucher à la bouffe parce que je me suis dit que c'était un... ça devait être empoisonné. Parce que j'étais quand même pas là par hasard. Et puis je me suis rendormi, et puis après, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, mais j'avais rien capté. Parce qu'il n'y avait plus le plateau repas, le seau était vide, on avait refait mes draps. Et alors j'ai essayé de... Ben, dans ce cas-là, tu t'occupes, je fais travailler mon imagination. En fait, j'ai essayé de... Ça, je m'en rappelle très bien. J'étais toujours dans le noir complet et je me suis dit, tiens, j'ai réorganisé l'espace en fonction des catégories sociales mondiales. Un tiers de la pièce, à peu près, c'était l'Occident. Dans ce tiers de la pièce, il y avait le matelas, qui étaient les riches de l'Occident. Après, à côté, j'avais étalé la couverture par terre. C'était un peu plus confort, quoi, c'était les classes moyennes. Après, j'ai étalé le drap. C'était... classe populaire occidentale, le quart monde. Et après, il y avait le reste. Et puis, une fois que j'avais fait ça, alors si, il me restait le bout de drap, finalement, je l'ai mis dans le tiers monde, parce que t'en as quand même qui tire leur épingle du jeu dans le tiers monde. Et dans ce qui restait, hein, le plus grand bout, ben, j'ai pris mon seau de merde et de pisse et je l'ai jeté. Je l'ai étalé dans tout l'espace qui restait. Je m'étais fait une représentation du monde. Comme ça que je me suis occupé dans... Je ne sais même plus combien de temps exactement j'ai passé à l'isolement. J'ai dû passer... je crois que c'est pas si longtemps que ça, 3-4 jours, je crois. Et là, pareil, je me suis réveillé... tout avait été rangé, tout clean. J'avais rien vu. J'ai entendu personne rentrer, j'ai entendu personne s'affairer, tout nettoyer. Aucun souvenir. Je me suis réveillé, j'étais à nouveau dans le noir. Et puis après, ils ont commencé à... Il y avait un petit couloir, en fait, devant une petite fenêtre à la porte d'entrée, et puis là ils ont commencé à allumer la lumière dans le couloir. Et là il y avait une horloge. Donc je commençais à me repérer. Savoir, ils allumaient sur les périodes de jour. Donc il y avait un petit peu de lueur qui venait dans la pièce, je commençais à distinguer un peu. Et le dernier jour, ils commençaient à ouvrir un peu le. Parce qu'il y avait des fenêtres en fait. Donc, ils ont commencé à ouvrir un peu les rideaux, les volets roulants. Donc, mais il y avait juste un tout petit peu de jour. Et je me rappelle, j'arrivais à distinguer juste un petit peu des voitures qui passaient. Alors, en commençant à regarder dehors, je me suis imaginé en fait qu'en fait on m'avait menti, que j'étais pas du tout rentré en France. Et je me suis dit, en fait, je suis au Maroc. Et en fait, dehors, ils ont mis, juste pour me faire croire, ils ont mis des voitures. Ils ont mis des plaques françaises sur les voitures pour me faire croire que je suis rentré en France, mais en fait, je ne suis pas en France. Et un matin, je me suis réveillé. Il faisait grand jour, c'était éblouissant, je ne voyais vraiment plus rien. Et il y avait plein d'infirmiers autour de moi. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, là, en fait, ils sont en train de me mentir, parce que je vois un infirmier, il avait un paquet de Marlboro dans la poche de sa blouse, au niveau de la poitrine. Et je lui dis, mais t'es pas un infirmier, toi. Et il me dit, bah si, pourquoi? Je fais, bah je sais pas, tu fumes. Les infirmiers, ça fume pas. C'est débile, mais bon, bref. Et là, ils sont quatre à avoir sorti leur paquet de clopes. Bah moi aussi, je fume. Et je me suis dit, bon, bah c'est des faux infirmiers. Et je voyais, il y avait leur... Il y avait marqué infirmier sur leur blouse avec marqué hôpital de Lagny. Je me suis dit, bon. Donc c'est des fausses blouses, c'est des fausses étiquettes. En fait, tout le monde me ment. Et bref, là, ils m'ont emmené prendre une douche. Et après, j'ai eu le droit à une. Je suis resté à l'isolement. Une semaine encore. Et cette fois, j'avais. J'avais un vrai lit, un bureau, une chaise et la fenêtre ouverte la journée. Et après, j'ai le droit d'avoir de la visite, j'ai le droit de voir ma mère. Donc c'est ça, j'ai dû rester au moins 4 jours vraiment dans le noir parce que j'avais demandé à ma mère après, mais au bout de combien de temps t'as pu me voir? Et elle n'avait aucune information, elle. Il lui avait juste dit non, vous pouvez pas le voir. Mais ils lui ont rien expliqué du tout. Elle m'a dit non, je savais pas, c'est juste que pendant 4 jours, elle avait pas le droit de venir. Et puis c'était un peu particulier, en fait, on était vachement entassés. En fait, c'était vraiment petit parce que c'était l'ancien hôpital enfant-ado. Donc il y avait les adolescents qui étaient tous tassés en bas parce que l'unité adulte avait brûlé l'année d'avant. Un patient qui avait mis le feu. Donc la première année, on était vraiment enfermés, il n'y avait pas d'extérieur du tout. Je suis resté un mois et demi sans sortir dehors. Même pas là, tu vois l'extérieur que par les fenêtres, quoi. Et puis après, j'ai le droit de sortir de ma pièce, je me suis retrouvé dans une chambre, on était plusieurs. Et petit à petit, j'ai commencé à remettre les pieds, à reprendre pied avec la réalité, à arrêter de croire que j'avais été élevé par un programme secret pour sauver l'Afrique. J'ai arrêté de croire que la CIA voulait me tuer. Mais par contre, j'étais bien désorienté, je savais plus quelle année on était. Je savais même plus quelle année on était. Je demandais combien de... Alors, et ça, c'est marrant, c'est parce que c'est la première fois que j'ai pu manger avec les autres. Il y en a un qui était un peu plus âgé que moi, en fait. Il y en a qui commence à me poser des questions. Surtout qu'au début, on ne parle pas trop, parce que quand tu sors de l'isolement, tout le monde se méfie. Parce que ceux qui vont à l'isolement, souvent, c'est des violents. C'est des gens qui se sont fait amener là par la police. Donc au début, quand tu sors d'isolement, les autres, ils attendent, ils jaugent, ils attendent de voir tiens, c'est qui lui, est-ce qu'il n'est pas dangereux, est-ce que... Voilà. Et puis là, j'étais à table et on me dit, mais alors t'as quel âge? Et là, je commence à dire que j'ai 17 ans. En fait, on m'avait pas mis avec les ados, on m'avait mis avec les adultes. Et il y en a un qui était assez jeune, je sais pas, il devait avoir 22, 23, j'en sais rien, enfin, par là. Il me dit, non, t'as 20 ans. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il me disait ça. En fait, il me disait, t'as 20 ans, c'était pour, je sais pas, par rapport aux autres, il pensait qu'il valait mieux que je dise que j'ai 20 ans, qu'avoir 17 ans avec les autres, c'était pas un bon message à envoyer, je sais pas. Enfin, bref, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais je pense que c'est ça. Donc j'ai dit, ouais, j'ai 20 ans. Et en fait, sauf que moi, j'étais encore complètement dans les choux, quoi. J'étais, je sais plus comment elle s'appelle, cette... j'ai oublié le nom des médocs, bref, peu importe. J'ai su après que c'est ce qu'ils donnaient dans les couloirs de la mort aux États-Unis pour calmer les gens, c'était la même. Dès qu'ils pétaient un câble, et comme il n'y a aucune activité dans les couloirs de la mort, au bout d'un moment, ils pètent un câble et restent enfermés dans 9 mètres carrés. Il leur donne ce produit-là. Le jour où j'ai appris ça, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, c'est la même chose que j'ai bouffé, moi. Ah ben, je peux te dire que oui, ils doivent se tenir tranquilles dans les couloirs de la mort au States. Parce que j'étais tranquille. Hein. Et donc, il me dit, t'as 20 ans. Et alors, je me dis, j'ai vraiment 20 ans. En fait, ça se trouve, j'ai 20 ans. Si ça se trouve, ça fait 3 ans que je suis là. Tellement j'étais paumé dans... Tellement t'es shooté, quoi. Donc j'ai commencé à penser qu'on était en 2001. C'est, en fait, on est en 2001. Putain, j'ai passé 3 ans ici. J'ai perdu 3 ans, en fait. En fait, ça faisait qu'un mois et demi, en tout. Bref, j'ai fini par sortir. En fait, j'avais perdu plus de 10 kilos. Parce que pendant toute la période, en fait, pendant une semaine à Ouaga, pendant que j'étais à l'ambassade, enfin... C'est l'hôpital de l'ambassade, ils disaient là-bas. En fait, c'était une espèce de grosse infirmerie, quoi, pour les expats. Et en fait, tout ce temps-là, j'ai pas mangé, quoi. Tout le temps où j'étais à l'isolement, j'ai pas mangé. J'ai commencé à remanger, en fait, qu'au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, quoi. Donc J'étais déjà pas gros avant, quoi. Donc, je devais peser 62 kilos, je faisais déjà presque 1m80. Effectivement, je me revois, ça faisait pas vrai, les côtes à nu, quoi, comme. Quand même pas comme dans les camps, mais quand même, pas loin, ça commençait, quoi. J'ai vite pris du poids parce que. J'avais changé de médoc, les médocs qu'ils me donnaient, là, le tégrétol, en fait, ça fait gonfler grave. Du stock, quoi. Et là, j'ai repris 20 kilos en un mois et demi. J'ai encore des vergetures sur les fesses aujourd'hui, quoi. On les voit moins maintenant, mais ouais, j'avais des vergetures partout, c'était tout violet. En tout cas, quand je suis sorti de l'hosto, déjà, quand je suis monté dans une voiture, j'étais mal, parce que c'était... ça allait trop vite, j'étais pas bien. Je suis resté 2-3 jours chez ma mère à me reposer, et quand je suis sorti dehors, j'ai croisé les potes, en fait ils savaient tous déjà, parce qu'il y avait la mère d'une copine qui était infirmière à l'HP. Elle avait tout raconté à sa fille, qu'elle m'avait vu, etc. Donc tout le monde était au courant. T'as un regard, tu passes vraiment pour... C'est marrant de voir le regard des gens qui te connaissent de... Comme ça fait peur, en fait. Comme si c'était contagieux, comme si tout le monde se... En fait, ouais, ça fait vachement peur. Et j'ai eu peur longtemps, hein. Pendant plusieurs années, je me suis dit, mais si ça peut m'arriver encore. D'ailleurs, ça m'est arrivé encore 3 fois après. Et aujourd'hui, au contraire, je suis content. Parce que maintenant, je sais ce que c'est, et ça me fait plus peur. En fait, il y a plein de gens qui en ont encore peur. Parce que quand tu commences à en parler, tu te rends compte que ça touche absolument presque toutes les familles. Et quasiment dans toutes les familles, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est fait interner au moins une fois. Et en fait, ça fait flipper tout le monde. Et l'HP, c'est le... Alors cette fois-là, la première fois, j'avais 17 ans, j'étais complètement largué, j'ai pas compris. C'est les fois d'après où j'ai commencé à plus m'en rendre compte de cet endroit. L'hôpital psy. Que c'est vraiment, en fait, c'est le baromètre de la société, quoi. Tu vas dans un hôpital psy, tu vas là-dedans, tu restes 2 semaines, et tu vois dans quel état est la société. Parce que les fois d'après, quand j'y suis retourné, je me suis mis à discuter, je discutais avec tout le monde, moi, de toute façon. Alors, tu vois des gens, il y a des paumés, hein, des enfants de la DAS, des mères isolées à qui on a pris les petits parce qu'elles s'en sortaient plus. Et c'est plutôt cette population-là à laquelle on pense. On se dit, l'hôpital psychiatrique, c'est les dégénérés de la société. Et ben, quand tu traînes un peu là-bas, tu te rends compte que pas du tout, quoi. En fait, il y a plein de fonctions à l'hôpital psychiatrique. C'est le dernier fusible. Parce que... En fait, tu croises aussi beaucoup de profs, tu croises des flics, tu croises des infirmières, des assistantes sociales, des gens qui travaillent dans le social au sens large, si on peut considérer que la police a un rôle social. Et puis après, il y a encore un troisième rôle, c'est le tampon. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais tu avais l'hospitalisation d'office. Ça, c'est le préfet qui décide. Il met qui il veut là-dedans. Donc, il y en avait un, par exemple, ça faisait 5 mois qu'il était là, parce que le préfet avait dit qu'il fallait qu'il soit là. Et tant que le préfet disait qu'il était là, et ben il restait là. Avec aucun statut. Pas besoin de garde à vue, encore mieux. Et tu pouvais rester 10 ans comme ça. Alors lui, après, pareil, tu te méfies toujours quand on te parle de... Ceux qui te racontent leur histoire, parce que t'es rarement là par hasard quand même. Tu te dis, est-ce qu'il en vend pas, est-ce qu'il est pas taré. Lui, c'était un ouvrier, un père de famille, d'origine maghrébine. Et en fait, il en avait marre qu'il y ait des descentes de flics dans sa cité. Et un jour, il y a les flics qui tapent à sa porte, qui voulaient fouiller tous les apparts, parce qu'ils cherchaient des petits dealers, et commencent à mal lui parler. Parce que... En général, avec la police en banlieue, t'es présumé coupable de toute façon. Et là, il en avait marre. Et donc il leur a dit non, tu t'embrouilles pas à ma porte comme ça, et puis non, tu vas pas rentrer. Et en fait, t'es chez moi ici, t'as pas à me parler comme ça. Le ton est monté, bref, ils lui ont pété deux côtes. Et il a été hospitalisé, ça faisait 5 mois. Donc de temps en temps, tu voyais les flics arriver avec un mec en menottes. Et des fois, ça sert, il y en a un, il était là parce qu'il y avait un règlement de compte. Il voulait absolument tuer un autre mec. Pour, je sais pas, quelle est sûrement une histoire de thune en plus. Et le problème, c'est que s'ils avaient rien pour l'accuser réellement, parce qu'il y avait juste. C'était un peu battu, mais il y avait pas de. L'autre n'avait pas porté plainte. S'ils le mettaient en garde à vue, ils pouvaient le garder 24 heures. Donc ils l'ont emmené à l'HP, le temps que l'autre ait le temps de s'organiser. C'est que j'avais croisé, il y en a un autre, il s'était planqué là, lui. C'était un. Lui, c'est l'inverse. Il y en a qui voulaient le buter, parce que pour une histoire de deal de drogue. Et donc, il s'était réfugié à l'HP, parce que lui se faisait passer pour fou. Il n'était pas fou du tout. Il se faisait passer pour un fou. Et le temps qu'un pote à lui organise une planque en Espagne. Et il passait sa journée à regarder qui c'est qui arrivait vers l'hôpital. De peur qu'il y en ait un jour qui arrive et qu'un jour ça se sache et qu'on vienne le voir. Donc il y avait ça aussi. Les années d'après, c'était mieux parce qu'ils avaient refait l'hôpital. Et donc quand notre secteur n'était pas bouclé, on avait le droit de sortir dehors. Il y avait un hall, et là on voyait les gens des autres secteurs géographiques. On pouvait sortir dans le petit jardin. Bon, nous, notre centre était plus souvent. Notre secteur il était plus souvent fermé que les autres, parce que dès qu'il y en avait un dans le service où ça craignait un peu, bah, pouf, on était tous bouclés. Par exemple, au moment où il y en a un qui sort avant qu'il sorte d'isolement, quoi. J'ai fini par m'y habituer que la quatrième fois. Parce que la deuxième fois, c'est pareil. C'est la deuxième fois où je suis allé à l'hôpital, là, j'avais commencé à comprendre. Tu vois. J'étais déjà parti dans mes délires, mais je n'arrivais pas à les arrêter. Enfin, j'avais commencé à comprendre ce qui m'arrivait. La deuxième fois, enfin comprendre moyen, parce que j'étais quand même encore dans des sacrés délires. Et la deuxième fois, c'était plutôt mieux quand même. Je commençais à savoir où j'étais. Et seulement quand on a voulu me donner mes médicaments, j'ai dit non, je ne veux pas prendre de médicaments. Elle a dit, ah bah si tu les prends pas, on va te les mettre en piqûre. Elle fait non, tu me piqueras pas. Et bref, bah du coup, comme je le disais non, ils sont arrivés à 6 pour me plaquer au lit. Et d'ailleurs, on n'a pas de chance, mais c'est un peu comme avec les chevaux, faut pas rester derrière. Il y a une infirmière qui s'est pris un grand coup de pied, qui s'est pris l'armoire derrière elle. Parce que j'étais sur le ventre, j'ai mis à chasser, c'était un réflexe. En tout cas, j'avais pas l'intention de lui faire mal. Je me cherchais juste à me débattre. Bref, ils m'ont piqué et puis je me suis réveillé dans le noir. Et pareil, là, j'ai redéliré. Et je chantais pas mal. Je chantais aussi des fois à tue-tête pour essayer d'occuper le vide. Je chantais des bribes de l'international, d'ailleurs. Et quand j'avais été dans la cellule, pas la cellule, pardon, mais la chambre d'isolement, la deuxième, celle où j'avais un lit, j'avais un mur mitoyen avec celle qui est dans le noir. Et j'entendais celui qui avait pris ma place. Et il faisait pareil, il chantait, il hurlait, de temps en temps. Il cherchait à occuper le vide. Et la quatrième fois, pareil, quand j'étais la quatrième année, en tout j'ai passé 4 étés à l'hôpital. Je comprenais exactement ce qui m'arrivait, mais j'arrivais pas à dormir. J'avais beau essayer de dormir, je pouvais boire de la passiflore, ou de l'ophytose ou tout ce que tu veux. J'avais été à l'hôpital et il m'avait renvoyé chez moi, il me disait non mais ça va monsieur, vous avez l'air d'aller bien là. Donc vous rentrez chez vous. Donc j'ai passé encore 2-3 jours sans dormir et c'est ma mère qui a fini par me ramener en me disant bon là En fait, eux, ils préfèrent, je crois, quand tu es hospitalisé à la demande d'un tiers, il n'y a que si le tiers t'autorise à sortir que tu as le droit de sortir. Alors que quand tu es hospitalisé de ton propre fait, bah, tu sors quand tu veux. Il y en avait une comme ça, elle était hospitalisée à la demande d'un tiers, c'était sa belle-mère qui l'avait fait hospitaliser. C'était une petite dame toute gentille. Elle, ça se passait très mal avec son mari, en fait. Il s'embrouillait. Elle était malheureuse et je pense que... Bref, je connais pas le détail, mais... Il y a une année où, comme elle avait été hospitalisée, elle avait rencontré un mec qui était bien, qui était chouette, qui était gentil, je le connaissais, je l'avais déjà vu, un moustachu avec sa pipe. Et ils avaient prévu de se mettre ensemble, et le temps qu'ils s'organisent, etc. Et le problème qu'elle avait, elle, c'est que comme elle avait des... Elle devait venir comme son mari, il devait quand même avoir de l'argent, parce qu'elle était... On voyait bien, elle avait des belles petites robes de chambre, des petits chaussons qui vont bien, du parfum, des... Et donc, personne ne venait lui parler. Elle était mise à l'écart. Socialement, elle était complètement... c'était une paria. Parce que quand même, socialement, la plupart des gens qui étaient là, il y avait quand même une sorte d'unité sociale. C'était soit des cassos, soit des gens qui travaillaient avec les cassos, quoi. Ce qu'on disait, des profs, des infirmières, etc. Et elle, ben, c'est comme si c'était une intrus, quoi. Elle n'avait rien à faire là. Et donc, personne ne lui parlait, sauf moi. Et là, elle commençait à péter un câble, pour de vrai. Alors qu'en fait, ça allait plutôt bien. Puisqu'elle était isolée de son mari, en fait, elle allait plutôt bien. Mais elle commençait à souffrir de l'isolement. Parce que de toute façon, tu peux pas compter sur les infirmiers, en tout cas, pour te parler. Eux, ils sont enfermés dans l'artisanerie, ils sont occupés à préparer les médocs et ils passent pas de temps avec toi, de toute façon. Et le psy, tu le vois une fois par semaine, vite fait. Et encore, des fois, tu le vois qu'une fois toutes les deux semaines. Donc, si tu n'arrives pas à nouer de relation avec les autres, t'es, psychologiquement, tu es mort. Et là, tu as intérêt à avoir des clopes, par exemple. Plus grosse monnaie d'échange, la clope. Parce que c'est un des derniers endroits où tu as le droit de fumer, quand même, l'hôpital psychiatrique, vu que tu n'as pas le droit de sortir. C'est des salles fumeurs. La salle fumeur, c'est un haut lieu social dans l'HP. C'est là que ça discute, c'est là que ça troque. T'achètes des services, quoi, parce que t'as des clopes, tu vois. T'as du pouvoir quand t'as des clopes à l'HP. Bref, elle, je discute avec elle, ouais, bah elle fumait pas en plus. Donc elle commence à péter un câble, pour de vrai, du fait d'être là. Et je lui dis, mais pourquoi tu sors pas? Elle me dit, mais je peux pas sortir, c'est ma belle-mère qui a signé les papiers. Et puis comme ça faisait déjà plusieurs années que j'étais là, que j'avais pas passé plusieurs années, j'ai passé plusieurs fois plus quelques mois. Je commence à connaître un peu, alors je lui dis, mais tu le vois quand ton psy? Bah demain. Je dis, bah demain, tu vas le voir. Tu lui demandes qu'il se substitue au tiers, parce que c'est la loi. Et tu lui demandes de sortir. Le lendemain, elle était sortie. Et c'est après que j'ai compris la relation qu'elle avait avec le moustachu, parce que lui, il est arrivé le lendemain. Et il était à l'isolement. Direct à l'isolement. Comme elle est sortie plus tôt que prévu, bah, c'était pas prêt son plan, et puis lui il était même pas au courant, donc elle est rentrée où? Bah, chez sa belle famille, là où ça se passait pas bien, quoi. Et donc lui il a pété un câble, il y est allé. A priori ça s'est mal passé, a priori il a dû être agressif parce que on t'envoie pas direct à l'isolement par hasard non plus, quoi. Et puis pareil, comme il avait l'autorisation de. Au bout d'un moment il a eu l'autorisation de venir manger avec nous, mais il fallait qu'il retourne à l'isolement. J'ai vu qu'il avait l'autorisation de manger, je suis vite allé dans ma chambre chercher des journaux, parce que quand t'as l'isolement et que t'as rien à lire, le temps est long, quoi. Donc je suis allé chercher des journaux, et puis là, comme il a eu le droit de fumer une clope, je suis allé fumer une clope avec lui. Et là, la salle fumeur est absolument vide, parce que tous les autres ont déserté. Ils se sont dit, waouh, ils attendaient que lui rentre, parce que c'est juste parce qu'il avait été à l'isolement. C'était un peu la règle, il y en a qui à l'isolement, quand il sort, hop, méfiance. Et puis on discute, c'est là qu'il me raconte tout. Et donc je lui ai dit, mais non, t'inquiète pas, c'est juste qu'elle pouvait pas tenir plus longtemps. Je la rassure un peu, je lui ai filé les journaux, il est allé dans sa chambre. Après il s'est calmé, au bout de 4 jours, le psy l'a laissé sortir en disant, non mais c'est bon, ok, il a juste pété un câble. Rien de grave, c'est bon, il rentre chez lui, il va pas recommencer. Et 3 semaines après, ils sont venus me voir tous les deux à l'hôpital, ils sont venus me rendre visite. Pour me remercier. Je trouvais ça mignon. Ça m'a fait plaisir. Après, je me souviens d'une nana qui me demandait, mais qu'est-ce qui t'a diagnostiqué à toi? Je dis, bah, maniaco-dépressif. Enfin, bipolaire. La grosse case, quoi. En tout cas, c'était les symptômes. Mais c'est, ça recoupe, en fait, ces symptômes-là, ça recoupe des cas ultra différents. C'est que t'as des périodes maniaques, mais effectivement, je pouvais, au tel point que j'arrivais même plus à dormir, même si j'avais envie, j'y arrivais plus. Et après, t'enchaînes avec une période bien dépressive, mais c'est pas genre je suis déprimé, c'était. T'as plus goût à rien, quoi. C'est, l'hiver, c'est dur, quoi. Après, c'était, le cycle, c'était annuel, c'était l'été, j'étais au taquet. Et l'automne, hiver, waouh, c'est fou. Surtout quand tu fais atterrir avec la camisole chimique, tu atterris sec. Et quand je lui dis ça, elle me dit « Ah, t'as de la chance !» Je dis que je n'ai pas compris tout de suite pourquoi j'avais de la chance. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que quand t'es maniaco, en fait, tes neurones, ils tournent trop vite. Ça va trop vite. Et donc t'as une imagination complètement débridée. Et donc t'as de la chance parce que tu te rends pas compte, en fait, où t'es. Et en fait, j'ai pas passé des si mauvais moments que ça, à part les moments où je me suis un peu rebellé, où les premières fois à l'isolement dans le noir, ça fait un peu bizarre, tu te demandes où t'es, mais même là, finalement, en fait, comme t'as ton imagination qui tourne à mort, ben en fait, t'es pas si malheureux que ça. C'est après, une fois que tu atterris, que tu commences à te rendre compte où t'es, où là, oui, là, tu commences à. En fait, ceux qui ramassent le plus à l'HP, c'est les dépressifs. Les vrais dépressifs qui sont là que pour dépression. Parce qu'eux, ils sont au premier degré, ils se rendent compte de tout. Ils voient pas de lien là où il n'y a pas à y en avoir. Ils voient juste la triste réalité, quoi. Donc, c'en est beaucoup qui se réfugient dans le sommeil, par exemple. Et c'est vrai que je me souviens des fois où j'étais dans ma chambre et j'entendais des bruits et j'imaginais tout d'un coup, j'étais en Afrique, que dehors j'entendais des petites sauterelles, et tout d'un coup, je me projetais complètement comme j'étais ailleurs, quoi, dans un autre univers. J'étais en train de. Peut-être dans une autre réalité que tu t'inventes au fur et à mesure, comme si tu rêvais éveillé, en fait. Et puis, quand même, à chaque fois que tu sors de l'hôpital, après, t'es ramené sur Terre par les médocs, tout ça te paraît tellement merdique, quoi. Le boulot. Les impôts, la retraite, les chemins tout tracés. Et donc finalement, au bout d'un moment, tu te dis, ça te manque en fait. Ce qui te manque, c'est ces moments de délire, quoi. Moi, j'ai jamais eu besoin de prendre d'acide ou de LSD, quoi. J'ai pas eu besoin. C'est comme si j'avais déjà eu, quoi. Pour ça, quand on me propose des trucs, des fois, je dis souvent, non, mais moi, c'est bon, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et ouais, après, ça te manque. Et puis après, tu dis, finalement, pour passer une semaine où t'as l'impression d'être super créatif, parce que tu dors pas, tu fais plein de trucs, tu t'enchaînes de la création sonore, des machins, des trucs, tu passes tes nuits dehors pour aller tourner des images, du machin, tu bidules. Pour une semaine où. Où tu t'arrêtes pas, après c'est un mois et demi d'hosto et puis 6 mois de dépression sous médoc. Là je me suis dit, en fait non, ça vaut pas le coup, quoi. Et c'est une nana à l'hôpital qui m'a dit, mais attends, toi t'es jeune là, qu'est-ce que tu fous là, t'as 22 ans, t'es beau gosse, toi, qu'est-ce que tu fais à passer ton été là? Là, à l'heure qu'il est, tu devrais avoir des lunettes de soleil dans les cheveux, un petit short et au bord de la plage. Et là, je me suis dit, en fait, je n'ai pas tout à fait cet idéal-là, mais je me suis dit, je voyais ce qu'elle voulait dire. Je me suis dit, elle a raison, qu'est-ce que je fous là, en fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter. Comme on arrête, comme un mec qui veut arrêter l'héroïne, quoi, c'est pas facile. Avant de penser que j'étais entre guillemets guéri, ça m'a pris presque 10 ans. D'ailleurs, c'est la seule fois où, quand le psy m'a dit c'est bon, vous pouvez sortir, je lui ai dit, non, je suis pas prêt là. Chaque entretien que j'avais eu avec eux sur les 3 années où j'y étais, c'était quand c'est que je sors? Quand c'est que je sors? Quand c'est que je sors? Et là, il me dit, là, c'est bon, là, ça avait l'air d'aller, vous allez sortir. Je fais, non, encore une petite semaine. Parce que là, je suis plus une semaine près. Sortir tranquille. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai déménagé, je suis atterri à Lyon. Et coup de chance, je suis tombé à l'hôpital de jour sur un psy pas mal. Donc pareil, j'ai dit, moi je veux arrêter les médocs. Et j'ai bien aimé sa réponse. Parce qu'il m'a dit, bah écoutez, moi je suis pas spécialement pour les médicaments. En plus, je vous connais pas. Je peux pas vous garantir que vous n'avez pas besoin de manger des médocs toute votre vie. Après, on va voir. Si c'est possible, on arrêtera. Je me suis dit, ah ouais, ok, toi tu me plais. Ok, vas-y. On va essayer. Et puis on a fait un sevrage en quelques années. Il diminuait les doses. Et puis à la fin, il m'a dit, bah de toute façon, ça demande énormément de travail d'apprendre à se connaître. Et les médicaments, en fait, c'est comme une béquille. Mais sauf que pour s'en passer, ça demande beaucoup de boulot et que, en fait, tout le monde n'est pas capable de fournir ce boulot-là. Ou a pas les ressources. Parce que moi, en fait, j'avais les ressources parce que ma mère était hyper dispo pour moi. Parce que j'avais des potes qui ont été hyper dispo pour moi. Le copain qui m'avait emmené au Burkina à 17 ans, et il a été hyper dispo pour moi. Son père, il lui a mis la misère. C'était presque la honte sur la famille d'avoir emmené un occidental au Burkina et qu'il soit reparti avec un rapatriement sanitaire. C'était presque la honte, quoi. Lui, ça lui a mis une grosse pression. Il a été super dispo pour moi. Mon frère aussi m'a mis la pression. Et avec le recul, j'ai remercié parce que lui, c'était du genre à éviter. Il voulait pas voir, tu vois, mais il mettait la pression. C'est bon, tu vas pas rester comme ça, mais mine de rien. Mine de rien, ouais, ça m'a aidé. Parce que j'ai pas choisi la facilité. Il y en avait une à l'HP, elle m'a dit, bah écoute, t'as le choix, hein, tu choisis la gauche ou la droite. Tu fais la gauche, tu demandes la Cotorep. Mais moi, et heureusement qu'il y a la Cotorep. Je dirais jamais qu'il faut supprimer ça, jamais. Mais moi, j'avais besoin de me passer de ça, quoi. Mais à l'époque, j'aurais pu me faire reconnaître travailleur handicapé. C'est comme si j'avais eu un truc à prouver, que je pouvais faire, quoi, que je pouvais être normal. Et en fait, c'est apprendre à se connaître, c'est tout. Et quelque part, c'est une chance, parce que si j'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais jamais été à l'HP. Peut-être que ça m'aurait pas empêché de faire des études quand j'étais jeune. Mais j'en vois plein là qui arrivent à l'âge que j'ai, qui se remettent complètement en cause parce qu'ils se posent des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Et c'est comme si, moi ça y est, c'était fait, quoi. C'est jamais fini, hein. On va toujours en découvrir. Mais...
À tous les fous qui traînent, qui galèrent dans les asiles de France, tous les détraqués, les déjantés, massacrés par les blouses blanches assermentées. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être enfermé? À tous les fous qui traînent, qui galèrent dans les asiles de France, massacrés par ces putains de blouses blanches assermentées. Dis-moi 16, qu'est-ce que ça fait que d'être infirmier?
Infirmier! Dans les couloirs de l'HP traînent ces sabots d'infirmier, sans l'espoir de retrouver là où mène sa destinée. Parfum d'étranges, étrangers, tribus de cinglés, fracassés au benzo, les blouses en errant sentent la naphtaline et tournent à la kétamine. Qui pourrait savoir qu'en acceptant les clés de ce putain d'HP, fallait pas croire que t'allais briller? Infirmier!
À tous les fous qui traînent, qui galèrent dans les asiles de France, tous les déjantés, tous les massacrés par les blouses blanches assermentées. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être enfermé? À tous les fous qui traînent, qui galèrent dans les asiles de France, tous les détraqués, tous les déjantés, massacrés par les blouses blanches assermentées. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être enfermé? En vérité, deux niveaux de massacrés: patients, infirmiers, HP, baromètre de la société, victime des arbitrages financiers, HP, ordre du préfet, hospitalisation d'office, garde à vue déguisée, HP, on interne surtout des profs, des flics, des assistantes sociales. À tous les fous massacrés, à tous les infirmiers massacrés par les tributaires budgétaires de cette basse d'alité. Infirmier, tu crois que tu vas rester ici à zoner, infirmier, hôpital massacré, en vérité de niveau de massacré, à tous les fous qui traînent, à tous les infirmiers massacrés par ces élites budgétaires assermentées, à tous les fous galérés par cette putain d'élite asynchrone acharnée. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être enfermé entre quatre murs avec un infirmier des asilés, camisole chimique,
infirmier,
pour pallier aux vérités budgétaires, bien enfermé pour aller rentrer chez toi tranquille, trincer l'info qu'on te distillera. Les fous, on les enfermera, et le soir tu rentreras tranquille chez toi, tracer l'info qu'on te distillera. Ici, on n'a pas d'autre mot à dire sur les entreprises, sur les décisions des entreprises pour lesquelles on trime. Profite, on n'a pas encore privatisé le rire. À tous les fous qui traînent, qui galèrent dans les asiles de France, tous les détraqués, tous les déjantés, massacrés par les blouses blanches assermentées, par ces putains de rigueurs budgétaires assermentées. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être enfermé? Est-ce que tu vois nos frères qui se font pas soigner? Assermenté,
infirmier, enfermé.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage. Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Tous les vendredis à 18h, rediffusion le samedi à 10h. Sur Radio Saint-Ferréol 94.2.
Yes.
Les ondes buissonnières.